Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table aujourd'hui, et bien toujours G, hein, docteur en informatique et dessinateur. Magali Garnero, libraire. Présidente de l'April, également connue sur le nom de Bouquinette. Bonjour Mag.
Salut.
Et Isabelle Carrère d'Antanac, notre
Bonjour.
Voisine. Bonjour Isabelle, et qui fait aussi une chronique mensuelle dans Libre à vous. Alors, donc, on va aborder quelques sujets. Alors, les personnes qui sont sur les salons web, alors les deux, hein, le salon Peertube et le salon de la radio, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, j'essaie de les suivre en même temps. Bah, premier sujet, bah, en fait, là, c'est une émission d'actualité, donc l'actualité est prime. Qu'est-ce qui est tombé vendredi ou samedi, je ne sais plus, le résultat de plus de 10 ans de procédure entre une petite structure, une petite entreprise du logiciel libre, une coopérative qui doit faire peut-être 30 ou 40 personnes de mémoire, qui poursuivait Orange pour non-respect de la licence libre d'un de ses logiciels, et Orange a enfin été condamné. Qui veut commencer là-dessus?
Bon, vu les regards, je me lance.
C'est toi, bah oui, bien sûr.
Effectivement, ça commence en 2005 avec un appel d'offres qui est gagné par Orange pour un certain lot. Sauf que Orange va proposer quelque chose, IDPM, je ne sais plus ce que c'est que l'acronyme, mais je peux le retrouver dans le jugement de 22 pages que j'ai à côté de moi. Voilà, et qui va utiliser une bibliothèque logicielle qui s'appelle LASSO. Pareil, c'est un autre acronyme, et si vous voulez vraiment la définition, je peux aussi le chercher dans le jugement puisque c'est marqué. Sauf que, ben, ils vont pas respecter la licence et qu'en 2011, Entrouvert va porter plainte.
Alors, peut-être l'occasion de préciser, parce qu'en fait, dans le logiciel libre, il y a souvent des gens qui disent libre de droit. Mais en fait, le logiciel libre, c'est pas libre de droit. Donc, peut-être déjà expliquer rapidement, parce qu'en fait, ça, on pourrait faire une émission entière là-dessus. D'ailleurs, on a déjà fait une émission sur ce sujet. Alors, je me souviens plus du numéro, mais on va me retrouver ça en régie. Mais alors, rapidement, sur quoi est basé, sur quoi sont basées en fait la, notamment les licences libres, le droit d'auteur. Peut-être J, qui est docteur en informatique et dessinateur, conventionné secteur 42. Peut-être un rappel rapide. Pourquoi justement, en fait, Entrouvert a pu faire attaquer Orange?
Alors en fait, des licences libres, il y en a plein déjà. Donc là, celle-ci, c'est la GPL. C'est celle qui est la plus, on va dire, une des plus restrictives. Enfin bon, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, il y a une clause dedans qui est très importante qu'on appelle le copyleft. Alors c'est un peu un jeu de mots avec copyright. Mais copyleft, c'est-à-dire, ça laisse ça laisse la copie, enfin en gros on garde la licence, c'est-à-dire que si moi je prends un logiciel libre qui existe sous licence GPL et que je fais quelque chose avec, que j'en fais une version dérivée, quelque chose comme ça, et ben la licence m'oblige à repartager, enfin elle m'oblige pas à repartager les modifications, c'est-à-dire que si je partage pas ces modifications, je fais ce que je veux quelque part, si c'est sur mon ordinateur à moi, ça regarde personne, mais si je partage ces modifications, si je publie ce logiciel, il doit être publié sous la même licence, c'est-à-dire sous licence GPL, donc sous licence libre, qui est déjà une des clauses que n'a pas respecté Orange. Je crois qu'il n'en a pas respecté d'autres, hein, si j'ai bien compris. C'était
4,
un peu le grand chelem.
Hein, ouais.
Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'ils ont fait une version dérivée de l'asso pour leur propre truc, qui pour le coup était une version publique, puisque ça a servi à... c'était le portail Mon Service Public, hein, donc c'est quand même un truc...
Oui, il y a pas mal de gens
dans
qui
le
vont
nom,
dessus.
Quoi,
hein.
Et ils n'ont pas republié leur modification sous licence libre, et ils n'ont pas fait de leur propre logiciel... un logiciel sous licence libre, donc ça contrevient à la licence GPL en tout cas.
Voilà, et donc, alors l'émission en question sur les licences libres, c'est l'émission 24. Alors comme on a un superbe site web, il suffit d'aller sur libreavoue.org/24 et vous retrouvez ou sur le site de la radio causecommune.fm, là vous recherchez licence libre. Donc rappelez simplement en fait que le logiciel c'est une création de l'esprit. Dans la plupart des pays, c'est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur est un droit d'interdire, donc il faut des licences qui expliquent quels sont les droits qu'on donne. Les licences libres donnent les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, hein, utilisation, étude, modification, redistribution. Et comme tu le dis, il y a un certain nombre de licences qui appliquent ce qu'on appelle la gauche d'auteur, le copyleft, qui impose, alors c'est pas restrictif, au contraire, c'est une persistance des libertés, c'est-à-dire que chaque version modifiée et redistribuée doit rester sous les mêmes licences. Et c'est ça, en fait, qu'on trouvait reproché à Orange, c'est d'avoir pris son code sous licence copyleft, donc la plus célèbre qui est la GNU GPL, de l'avoir intégré dans leur outil et de ne pas avoir respecter ces règles. Alors quand on dit plus de 10 ans, j'ai vérifié, la première fois où Entrouvert s'est rendu compte, a eu des doutes sur ce que faisait Orange, c'était en 2006, donc ça fait 17 ans. Donc le temps d'avoir les preuves, de commencer à faire les différentes démarches, etc. Alors ce qui est assez effrayant quand même, peut-être Isabelle là-dessus, c'est que finalement on a un mastodonte, parce qu'Orange c'est monstrueux. Alors ils ont différents services évidemment, quoi. Donc là c'est le service Orange Business Services qui est attaqué, donc les personnes qui font des développements logiciels. Finalement, on peut se dire, en fait, ils sont sans doute dit qu'Entrouvert aller ne rien faire, en fait.
Aller lâcher. Aller lâcher. Laisser tomber. Que... Qu'ils étaient les plus gros, les plus forts, et comme ils le font dans des tas d'autres questions. Moi, ce qui m'interroge quand même, parce que tu disais que c'était pour mon service public, ouais. Ce qui m'interroge, c'est pourquoi c'était que Orange qui a été attaqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet de ce qu'ils ont fait, eux, de ce qu'ils ont développé, c'était quoi? Je suis pas allé, moi, sur le... J'en sais rien, j'ai pas regardé. C'était un morceau d'application.
Ouais, en fait, Orange proposait une plateforme et utilisait le logiciel de l'ASSO qui, en fait, c'est un service d'authentification qui permet de s'authentifier à plusieurs sites différents avec un seul compte.
Et donc, du coup, ça, pourquoi est-ce que ça n'est que Orange qui est attaqué là-dessus? Et pas, j'en sais rien, moi, l'État, le gouvernement, je veux dire.
Parce que tout simplement, c'est eux qu'on fait tout simplement le développement, probablement.
Voilà, donc c'était une question de le libre, du coup, pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas aussi ceux qui ont utilisé les choses et pas simplement celui qui a développé?
Pour moi, je pense que ceux qui l'ont utilisé ont payé Orange pour avoir cette plateforme-là. Donc, c'est Orange qui a récupéré un max
de... Tu sais, c'est la même histoire que les sous-traitants dans le bâtiment, je trouve. Enfin, pardon. c'est pas exactement pareil, mais c'est quand même ça. Est-ce qu'on est responsable que quand on est vraiment strictement acteur de la chose, du méfait? Donc là, c'est Orange qui est acteur du méfait, dont acte. Mais quand on le soutient, quand on le laisse passer, quand on l'utilise, est-ce que du coup, c'est pas grave? Tu vois, je pense à la question de la responsabilité qu'on peut avoir les unes les autres, des structures et des sociétés. Et là, décidément, quand même, les ministères ont par rapport à ça.
Après, je crois qu'il y a aussi une question de confiance. Je veux dire, les gens qui ont accepté ce marché public, ils avaient confiance d'Orange, parce que tout le monde connaît Orange, bien sûr.
Mais bien sûr,
Orange est honnête, c'est évident.
Voilà. Oui.
Et malheureusement, ça n'a pas été le cas à ce niveau-là. Cette licence-là n'a pas été respectée. Ils se sont fait des sous sur le dos d'une petite entreprise.
Exact.
Moi, ce qui m'a traumatisé dans la lecture du jugement que Fred nous a envoyé, alors pas du tout pour l'émission, hein, juste au sein de l'April, c'est le jugement de 22 pages, c'est que Entrouvert a dû prouver l'originalité de son logiciel.
C'est ça.
Il a dû prouver qu'ils avaient réfléchi et qu'ils avaient fait les choses correctement. Quoi.
Oui, mais alors ça, c'est normal, entre guillemets, parce que la caractérisation de l'application du droit d'auteur, c'est justement l'originalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu écris trois lignes de code que c'est forcément protégé ou régi par le droit d'auteur. Il faut que ce soit original. Donc cette notion d'originalité, de toute façon, dans tout le cas de contrefaçon de logiciel, il faut démontrer l'originalité.
Oui, mais si le truc n'avait pas été original, mieux fait que tous les autres, ils ne l'auraient pas choisi pour l'incorporer à leur plateforme.
Oui, d'accord.
C'est de la mauvaise foi.
Ça veut simplement dire qu'il y a certains bouts de code qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, régis par le droit d'auteur, parce que tout simplement ils sont trop simples, entre guillemets. C'est juste cette notion-là.
Il y avait une anecdote comme ça sur. Alors c'est pas du tout du logiciel, mais c'est pareil, c'est le même principe. Tu avais des internautes qui avaient attaqué TF1, je crois, parce qu'ils avaient utilisé des photos pour une émission de bouffe de TF1. Ils avaient pris la photo du plat qu'eux avaient fait. Et la justice avait donné raison à TF1 en expliquant que les photos ne constituaient pas quelque chose d'original, puisque c'était une photo de salade comme il y en avait des millions. Et donc le droit d'auteur ne s'appliquait pas. Donc il y a vraiment un truc quand même comme ça dans le droit d'auteur auquel il faut faire gaffe. Quoi.
Alors, sur le salon Peertube, on nous fait une remarque ou une question que je vais relayer. Donc, est-il à envisager qu'Orange n'a rien dit aux décideurs financeurs qui n'ont pas forcément demandé à avoir les licences logicielles? Donc en gros, est-ce que...
C'est un peu la remarque par rapport
à l'État. Est-ce que l'État s'est préoccupé de savoir ce que faisait Orange?
C'est une excellente bonne question, mais est-ce qu'on a la réponse? Je ne suis pas sûr.
Il y a la question légale, en fait. C'est qu'il y a probablement des subtilités légales qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, par exemple, imagine dans le droit, tu as le recel, par exemple, qui est le fait d'acheter quelque chose qui a été volé, si je ne dis pas de bêtises. Moi, ça, c'est pareil. Si tu ne sais pas que le truc a été volé, comment ça se passe? Faudrait demander à des avocats, je ne sais pas trop.
Alors, sauf qu'on va quand même préciser que quand il y a plus de 11 ans de procédure, c'est qu'il y a eu appel, cour de cassation, et une décision de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui a rappelé qu'en fait, ça se réglait sur le champ de la contrefaçon, de la contrefaçon, et non pas du parasitisme. Donc en fait, au départ, peut-être qu'Orange pouvait se dire, bon, on savait pas trop, on a machin, mais à un certain moment, en fait, ils ont persisté quelque part à aller dans le procès. Et d'ailleurs, que peut-être, ils vont encore agir en cassation sur un autre, pour une autre raison que la simple contrefaçon. Et encore une fois, Orange fait à côté des choses qui est assez étrange, enfin, pas forcément étrange, parce que ces structures-là sont tellement grosses qu'à côté de ça, ils font des choses bien dans le logiciel libre. Voilà, on peut se demander si les gens qui font des choses bien dans le logiciel libre, on n'aurait pas dit Orange Business Services, pourquoi vous faites ça? Ah, laissez tomber, parce qu'en plus, vous avez légalement tort, vous avez éthiquement tort, et là vous mettez en plus en danger une entreprise du logiciel libre qui est une coopérative qui fait 30 ou 40 personnes. Quoi.
C'est ça.
Moi, ce que je n'ai pas compris dans la démarche d'Orange, c'est qu'ils font appel à un expert en informatique, qu'ils ont dû payer une fortune, qui n'a même pas lu le code source du logiciel. Mais comment voulez-vous que le mec il soit crédible après un témoignage pareil, quoi?
Alors, je relaie une autre réaction par rapport à ta remarque, Isabelle, de Yo, sur le salon Pierre-Tube. Quand un client fait appel à... Alors par contre, je me suis mal positionné pour lire entièrement, mais quand un client fait appel à un prestataire Orange, il n'a pas donc forcément la connaissance technique ni les capacités à comprendre les bibliothèques et les licences incluses dans le produit logiciel qu'il a acheté. Le client est donc plus une victime, à mon sens, et ne doit pas être condamné.
Ouais, moi ça, pour moi ça se discute en termes éthiques entre guillemets, ça se discute la question de la responsabilité. Je continue à penser que je comprends hein, l'idée qu'on va pas aller regarder dans le détail ce que tu disais toi sur des, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Pour autant, s'il était plus dans la société possible d'acter cette responsabilité que nous avons tous, peut-être que des tas de choses se feraient pas ou se feraient moins. C'est ça que je voulais dire.
Alors comme c'est Orange le cas, on va rappeler parce que je crois que c'est tout à l'heure Muman sur le salon Pierre-Tube qui l'a rappelé aussi. C'est pas la première fois que Orange est entre guillemets impliqué dans ce genre de choses, et notamment tous les fournisseurs d'accès de boîtes internet, hein, Free et compagnie. Il faut simplement savoir que la plupart de vos boîtiers internet sont composés notamment de briques logicielles libres, et qu'il y a quelques années il y a eu des affaires sur lesquelles en fait notamment Free qui voulait au départ ne pas justement respecter la fameuse licence copyleft GNU GPL, Orange aussi qui se faisait un petit peu tirer l'oreille, donc voilà, ils ont été contraints effectivement de publier la liste des logiciels qui étaient des logiciels libres qui étaient intégrés dans ces boîtes internet, dans ces box. Voilà, donc c'est pas la première fois. Voilà, et comme le dit sur l'autre salon, vous voyez, je suis quand même deux salons. Ça c'est le salon web de la radio. Orange a en gros livré une boîte noire, donc l'acheteur entre guillemets, donc l'État, n'avait pas accès au code source. Par contre, on pourrait effectivement, comme le dit Étienne, reprocher à l'État d'acheter des boîtes noires sans se préoccuper de ce qu'il y a. Magali, vas-y. Voilà.
Moi, ce que je voudrais, c'est que l'État, au lieu de faire des appels marché public et qui est confié à des entreprises, alors là c'est français donc tant mieux, mais bon des fois c'est d'autres nationalités, bah qu'ils investissent en interne pour former des gens en interne qui feraient des logiciels libres internes, hein, et il y aurait plus de problèmes là.
Est-ce que tu essayes de faire des liens avec un autre sujet que nous avons pour...
tu veux embaucher des fonctionnaires, mais ça c'est passéiste.
Mais ouais, je vais embaucher des fonctionnaires qui font des logiciels libres, qui soient auditables, qui soient récupérables, qui soient partageables à tout le monde. Je sais, c'est totalement utopique, mais je serais pas président de la Pride si j'avais pas cette envie là.
Moi juste un truc aussi sur le montant, donc ils ont été condamnés à verser 650 000 euros à Entrouvert, hein, donc Orange. J'ai regardé un petit peu, Orange c'est 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros. Ouais. Donc par rapport au chiffre d'affaires, ça correspondrait à 0,001% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc l'équivalent, j'ai calculé, pour une personne au SMIC, ce serait une amende de 25 centimes. Voilà.
Ouf. Donc et tu divises pas par le nombre d'années effectivement de procédure, c'est ça qui est honteux, quoi.
Il y a des chiffres qui sont sortis. Hein.
Et il y a une question sur le chat en binaire, c'est écrit comment? C'est Étienne. Hein.
Je sors ma calculatrice, je t'arrive.
Et tu veux dire que c'est un peu comme les amendes que met la CNIL à Google et compagnie, c'est peanuts.
C'est bien inférieur, quoi.
C'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait. Bah, combien ils ont gagné avec l'appel d'offres de mon service public, quoi.
Ouais, je crois que dans le jugement il y a marqué 8 millions, mais que ça concerne juste une partie d'un lot sur une année et ainsi de suite. Donc c'est voilà.
Et on va préciser que pour l'instant, Entrouvert n'a pas communiqué, hein, donc ni Orange d'ailleurs.
Mais je crois qu'ils n'ont pas le droit, non?
Ah bah si, ils ont le droit bien de communiquer, bien sûr que si.
Ils ont été déboutés de leur demande de publication. Alors après,
c'est autre chose,
pas.
Ça, c'est la publication de voilà. Ils ont le droit de commenter Donc pour l'instant, ils n'ont pas commenté. Donc nous, l'April, nous a demandé de faire une communication. On attend en fait qu'Entrouvert communique aussi, parce que voilà. Donc voilà, je pense qu'ils attendent aussi de voir un petit peu les résultats qu'ils peuvent en tirer. Côté Orange, évidemment, si Orange nous écoute et veut nous appeler, qu'ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de souci. Hein, 09 72 51 55 46. Voilà, on peut-être qu'il y a des gens qui... Enfin, on sait qu'il y a des gens qui écoutent l'émission parce qu'on les voit plein là. Ouais. C'est ça, on leur fait coucou d'ailleurs. Hein, voilà. Voilà, ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie-là?
Bah non, on va suivre. On va suivre la suite.
Ah, bah, c'est un dossier conçu depuis le début. C'est un dossier sur lequel on a été informé, pas directement impliqué depuis le début. Et encore une fois, comme je l'ai dit sur Mastodon, hein, on félicite Entrouvert pour cette ténacité absolument incroyable, et honte à Orange pour ce comportement. Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, juste pour finir sur une note positive, parce que je disais que c'était pas une grosse amende, mais c'est quand même bien fait pour leur tronche à Orange. Et ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir des petites piqûres de rappel sur les licences libres, qu'on fait pas n'importe quoi avec le logiciel, c'est bien, quoi.
Exactement.
Après, je tiens à rappeler que chez Orange, il y a des gens qu'on connaît, qui font des choses bien, qui ont monté une communauté intéressante et qu'on apprécie énormément. Et je pense que ces gens-là n'y sont pour rien, cette mauvaise image de l'entreprise Orange. Donc je veux les saluer et leur dire qu'on les aime quand même.
Bah, il reste quand même chez Orange, quoi.
ça c'est fait.
Bon, ceci dit, je dis ça, mais peut-être qu'effectivement on aura cette partie d'Orange un jour dans l'émission, notamment dans le cadre d'un consortium de grandes entreprises qui essayent de faire, pour le coup, du logiciel libre de façon correcte. Voilà. Mais si encore une fois Orange veut, l'autre partie d'Orange, Orange Business Service, veut discuter avec nous de la partie licence et pourquoi ils n'ont pas respecté ces licences logicielles. Voilà. Mais en plus, je pense qu'on va faire un sujet vraiment sur cette notion de non-respect des licences, parce que c'est pas les seuls cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas qui existent, mais qui vont pas jusqu'au procès, parce que tout simplement, en fait, ça se règle non pas à l'amiable dans le sens financier. C'est ça, c'est vrai que la personne qui se dit, tiens, j'ai fait une erreur, je la reconnais, je diffuse les sources. Et là, Orange, dans un cas précis où je sais que j'ai fait une erreur, mais je continue parce qu'en face de moi, j'ai une PME, PMI, je sais que je gagnerai à la fin. Finalement, la fin, c'est quand même le petit qui gagne. Alors, il y a un commentaire. Je pense que dans ces genres d'affaires, ce qui est important, c'est plus la communication en bad actor d'Orange, plus que la réelle prune financière. On verra ce qu'on trouve et dit par rapport à la prune financière, effectivement, aussi.
Ça fait du bien quand même de recevoir une prune financière comme ça.
Voilà. Alors, moi, j'avoue que j'ai fêté ça avec une bonne bière belge. Parce qu'à Entrouvert, ils aiment bien, notamment, il y a une partie en Belgique. Donc voilà.
T'as pris deux fois des moules, quoi.
Alors, Jeff fait une référence. Alors, c'était pas des moules, c'était des nouilles, je crois. Pierre Desproges.
Non, c'est des moules.
C'est des moules. Ok, d'accord. Tu vois, alors, voilà. Bon. Ok, allez, on va changer de sujet. Alors, je vous préviens tout de suite qu'on va pas aborder tous les sujets parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Mais en même temps, on fait ce qu'on veut. Alors peut-être qu'on l'a, on va. Alors c'est mon deuxième sujet à moi. Peut-être que là ça va être beaucoup plus rapide parce que peut-être que vous allez me dire ça n'a aucun intérêt.
Ça n'a aucun intérêt.
Écoutez, on va voir. Alors deuxième sujet. Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d'État chargée du numérique. Alors oui, peut-être que vous ne saviez pas que dans ce gouvernement, enfin dans les gouvernements, il y a des gens qui sont des fois en charge du numérique. Donc avant, c'était Jean-Noël Barrot, donc du MoDem.
Qui était ministre.
Alors justement, qui était ministre, tu vas pouvoir préciser. Donc suite au changement de première ministre en premier ministre, pendant un certain temps, il n'y a eu personne. Jean-Noël Barrot, lui, est parti à l'Europe de mémoire. Et donc, secrétariat d'État chargée du numérique, il y a une nouvelle personne qui est elle aussi du MoDem, qui s'appelle Marina Ferrari, que globalement on connaissait pas véritablement dans le monde du numérique et autres. Donc il y a un article Numérama, toutes les références qu'on peut citer sont sur la page de l'émission, sur libravou.org ou sur causecommune.fm. Alors première remarque d'ailleurs, Magali, Jean-Noël Barrot était ministre délégué, Marina Ferrari est secrétaire d'État. C'est quoi la différence ?
Et du coup, il me semble que comme elle est secrétaire d'État, elle ne pourra pas assister à tous les conseils auxquels les ministres assistent. Elle sera là que à ceux qui la concernent. Donc déjà, elle est limitée dans la stratégie et elle peut pas imposer le numérique sur des. Voilà, bref. Donc et puis, enfin, je trouve que c'est un super mauvais message qu'on voit le gouvernement de faire passer le numérique de ministre à secrétaire d'État, quoi. Ça veut dire que c'est moins
c'est
important.
Normal, c'est une femme.
Ah mais c'est encore
comme
plus...
ça, elle est payée moins.
Mais c'est pire, ça veut dire que si c'est une femme, elle mérite pas d'être une ministre, elle mérite d'être une secrétaire.
Elle-même, elle a tout de suite dit, je vais travailler avec Bruno Le Maire. Elle a dit, tu vois, elle va pas. Elle va pas travailler toute seule.
Elle est pas capable.
Ça c'est quand même
ministre de référence.
Alors moi j'ai une question pour vous. Toi, tu dis que c'est parce que tu penses que c'est une femme. Une autre raison, c'est parce que finalement le numérique au gouvernement, ils s'en foutent, donc ils rabaissent. Troisième possibilité, vu que c'est arrivé après la tragicomédie de François Bayrou. Je rappelle que Marina Ferrari. MoDem, est-ce que c'est une façon de faire payer à Bayrou aussi son tragique comédie finalement en rétrogradant l'une de ses ministres ou c'est une erreur de lecture.
J'en sais rien. Puis alors ça, moi, par contre, quand tu dis qu'on la connaissait pas du tout, moi il me semble que c'est elle qui a poussé ou qui a soutenu l'affaire là du logiciel du machin, le truc anti-Covid.
On est dans une émission. On n'est pas sur CNews, on n'est pas sur BFM.
Mais non, mais du coup,
on affirme des choses correctes. On va préciser, on va pas tous parler les uns sur les autres. On va préciser qu'elle a été responsable des ressources humaines d'une entreprise, d'une start-up qui effectivement fait des applications, dont l'une des applications était tous anti-Covid. Voilà. Mais en tout l'occurrence, quand je dis qu'on la connaissait pas, connaissait pas avant.
Ce que je voulais dire par là, simplement, non, c'était pas une nouvelle pour une nouvelle comme ça, c'était juste pour dire que c'est quand même quelqu'un qui a œuvré d'ores et déjà, même si elle n'était que aux ressources humaines, etc., elle était quand même dans une boîte qui avait une certaine logique et une certaine vision du numérique. Donc ça nous donne ça comme message, quand même. Indépendamment de la question de secrétariat d'État, ministère, etc., ça nous envoie ça, avec le « ok, on est reparti, on continue et on va poursuivre et continuer sur des injonctions, et non pas sur des choses génialissimes, quoi. » Enfin, je vois pas ce qu'on a de grandes choses à attendre de cette nomination.
Bah, rien.
Bah, je sais pas depuis quand on attend quoi que ce soit de la nomination de quelqu'un au gouvernement.
D'un ministre macroniste.
Bah si, pour savoir combien de temps il va rester, par exemple, tu vois.
Ah, Atal, ouais. À l'éducation nationale. On lance les paris.
Okay.
Après,
vas-y,
c'est
Maggie.
Pas non plus n'importe qui. Je suis sûre que les gens en Savoie la connaissent, puisque elle était assistante adjointe d'un maire, elle a été députée. Enfin bref, elle est connue localement.
Ouais. Ouais, je vais forcément pas être gentil avec ce genre de. Enfin, pour moi, c'est vraiment le tiercé de la communication politique qui est vraiment basé sur du vent. Quoi. Justement, t'as le côté local. Effectivement, on s'est partagé un article du Dauphiné, donc du coin. C'est une gloire locale comme ça. Bon, moi, je m'en fous que ce soit une gloire locale. Je voudrais quelqu'un qui ait des compétences, qui ait de l'éthique, je sais pas. Voilà, elle est moderne parce qu'elle a bossé en start-up. Bon, effectivement, c'était celle qui a fait tout anti-Covid. Moi, c'est pas mon modèle non plus. Et puis, alors, le côté expertise parce qu'elle a bossé dans une start-up qui fait du numérique. Enfin, elle était au RH. Quoi. Ça, c'est comme si tu disais on va prendre le gardien de nuit de l'entrepôt Amazon, il connaît bien le numérique. Quoi.
Oh non, enfin, le gardien de nuit, les rats.
Bon, bah
non.
Super. Quoi. Non, mais, bon.
C'est pas gentil pour les gardiens de nuit.
Je vous rappelle que vous avez si vous êtes pas con, vous avez des petits. Comment ça s'appelle
Des petits cartons.
Des petits cartons si vous voulez signaler effectivement qu'un invité va trop loin. Mais tu as le droit, tu as le droit.
C'est vrai que l'hexadécimal, c'est exagéré.
Alors, je précise que sur le salon web, Marie-Audi nous dit Bayrou a demandé des gens de province. C'est-à-dire, peut-être que voilà. Bon, en tout cas, bon, on la jugera sur les actes, hein, sur les faits, hein, a priori. Magali.
Du coup, moi, j'aimerais lui poser des questions, comme ça, si elle nous écoute.
Si
elle nous écoutait, j'ai plein de questions pour elle.
Alors, au moins une question, laquelle ?
Ah, une seule.
Ah ben, vas-y, deux. Allez.
Allez, je voudrais savoir quelle est sa position sur les open bar, genre défense, armée. Parce que franchement, nous, on suit le dossier d'open bar qui utilise des produits de Microsoft depuis une éternité. Donc, j'aimerais bien savoir si elle va changer ça, parce que on serait bien qu'à s'y mettre. Et puis, son avis sur le cloud, puisque ce serait bien que ça revienne en France, tout ça. Donc, est-ce qu'elle va continuer à essayer de mettre en place ce soi-disant cloud souverain? J'adore ces termes. De cloud souverain que son prédécesseur voulait mettre en place, et j'étais limitée à deux, donc je m'arrête là.
Tu peux aller à trois. T'es la présidente. Hein.
Ah ouais, c'est vrai ce que je veux. Alors, du coup, j'aimerais lui faire un petit message si elle pouvait mettre à jour sa page Wikipédia. Puisque n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, ça serait bien ça serait bien que des gens, dans ces cas-là, dans son entourage, je suis sûre qu'elle a plein de gens qui seront payés à faire ça, mettre la page Wikipédia à jour, puisque elle est secrétaire d'État chargée du numérique.
Tu veux dire laquelle page?
Mais il manque quoi comme information?
Ce n'est pas encore. Alors, à la date de dimanche, sur sa page Wikipédia, parce que moi je suis allée sur sa page Wikipédia, il n'était pas encore marqué qu'elle était secrétaire.
Là, tu m'étonnes parce que je crois que Pierre-Yves Baudouin a fait la mise à jour de toutes les pages, mais bon, peut-être que. Bon, écoutez, on vérifiera. Écoutez, il y a des gens qui nous suivent en direct. Connectez-vous sur la page Wikipédia. Donc, Marina Ferrari, dites-nous si elle est effectivement annoncée comme secrétaire d'État au numérique. Voilà, ça m'étonne un petit peu que Wikipédia soit pas à jour.
En tout cas, c'est une famille qui a l'air d'être assez connue.
Ok. C'est bon pour vous?
Ouais.
Pas assez bon.
On va pas tout de suite aborder le sujet d'après, vu que tu viens de parler des open bar Microsoft Défense, je pense qu'on va faire croire qu'il y a une logique dans cette émission.
Ouais.
Je suis même pas sûr. Alors je préviens en régie, je sais pas si on va faire une pause musicale, parce que voilà, on verra. Mais bon, mais par contre, la pause musicale choisie pour le sujet principal sera après, parce que c'est celle qui a été choisie par Étienne. Nouveau sujet, un rapport parlementaire sur la cybersécurité alerte sur le piège Microsoft. Ça, c'est toi.
Ouais, en fait, c'est un des sujets qu'on suit à l'april. Bon, alors, le piège Microsoft, tout le monde le connaît, c'est cette dépendance qu'ont les différents ministères et administrations à n'utiliser que les logiciels de Microsoft. Alors, non, pas que, mais beaucoup. On essaye d'avoir un maximum d'informations en faisant des demandes à la CADA, en encourageant fortement les députés à poser des questions au gouvernement pour savoir combien ça coûte réellement. Bon, on n'a pas toujours de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit depuis... Je pense que Étienne pourrait le savoir mieux que moi, mais j'ai l'impression que moi je suis à l'après depuis 2007, c'est toujours été un sujet assez important. Et donc là, il y a un rapport qui a été fait, il y a une mission, alors une commission flash sur les défis de la cybersécurité qui a été mise en place en mars 2023. Il aura fallu un peu moins d'un an pour faire un rapport d'information. Ça a été rapporté par Anne Le Hénanf et Frédéric Mathieu qui sont les deux rapporteurs de ces dossiers, et donc ils pointent cette dépendance importante aux GAFAM qu'ils appellent le piège Microsoft. Je continue.
Non, peut-être juste une précision, parce que tu parlais de 2007, il s'est passé un truc en France en 2007. Il y a sans doute un lien.
L'élection de Sarkozy.
Voilà. Et effectivement, ça, sur la partie Microsoft défense, c'est-à-dire que très clairement, les enquêtes qu'on a pu faire et complétées par des enquêtes de journalistes, notamment Cache Investigation, confirment que avant 2007, il y avait notamment pas mal de militaires qui œuvraient en faveur du logiciel libre, et qu'à partir de 2007, notamment l'arrivée effectivement de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, il y a eu un changement. Là, vous allez sur le site de l'April, april.org, vous cherchez Open Bar Microsoft défense, défense, vous trouverez toutes les informations utiles. Bon.
Moi, j'ai déjà fait une BD dessus, une chronique dessus. C'est pareil, hein, c'est un truc que je commence à maîtriser un peu. Moi, ce qui me fait rire, surtout dans ce rapport, c'est... Donc, en gros, l'idée, c'est que ils ressortent du chapeau ce truc de l'OS souverain. Là, on avait beaucoup déconné là-dessus.
OS, c'est quoi, OS?
Operating System, donc système d'exploitation en français. Typiquement, Microsoft Windows, Mac OS sont des systèmes d'exploitation connus. Évidemment, le nôtre, qu'on défend beaucoup, c'est plutôt GNU Linux. Et le rapport dit notamment qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de système d'exploitation souverain en Europe. Et alors, va falloir définir ce qu'on veut dire par souverain, parce que bon, c'est peut-être un mot aussi qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais enfin, moi, je le comprends dans un cas comme l'armée, c'est quelque chose où on va savoir que va pas y avoir des accès privilégiés pour une puissance étrangère, par exemple la NSA, enfin c'est pas une puissance étrangère, mais voilà, ce genre de truc. Bah si, dans ce cas-là, il y a un système qui existe, justement, c'est GNU Linux, c'est un système qui est ouvert, il est donc auditable, il est même modifiable, il est adaptable, donc il existe. Ok, il fait pas exactement peut-être le café comme veut le ministère des armées, mais il existe.
Et sur le salon Peertube, on nous précise qu'il y a aussi la version pour la gendarmerie nationale, alors qui est une version basée sur Ubuntu, qui s'appelle Genbuntu. Mmh. Et la gendarmerie nationale, depuis, je crois, 2006, travaille sur ce sujet de mémoire. Et encore une fois, on a reçu le lieutenant-colonel Stéphane Dumont. Donc sur libreavoue.org, vous cherchez Stéphane Dumont, qui était une des personnes à avoir mis en place cette solution. Donc c'est possible.
Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus possible que la gendarmerie, si je dis pas de bêtises, c'est l'armée aussi. Enfin, c'est une. C'est un des corps de l'armée, quoi.
C'est une branche d'armée qui est maintenant au ministère de l'Intérieur aussi, maintenant.
Ah, ok.
Depuis quelques temps.
Ils
ont fait un paquet.
Enfin bon, et puis voilà. Et donc après, on nous dit que les coûts pour migrer seront trop forts. Mais en fait, ils sont trop forts à cause du fait d'avoir choisi Microsoft. C'est-à-dire, si tu prends un truc avec des formats fermés dans tous les sens, le jour où tu veux les migrer sur des formats ouverts, c'est compliqué. Alors que si t'avais été directement sur des formats ouverts, t'aurais pu migrer de GNU Linux à FreeBSD, je sais pas quoi, ce qui sont d'autres systèmes d'exploitation libre. Hein. GNU Linux n'est pas le seul, c'est juste le plus connu. Enfin bon, voilà quoi. Donc c'est. Je pense qu'on en parlera aussi sur un autre sujet, sur les données de santé, mais il y a toujours ce truc de l'État qui se comporte vraiment comme un consommateur en disant je suis dans un magasin, je ferme les yeux, quels sont les systèmes d'exploitation?
La stratégie d'écrire des choses pareilles? Parce que tu vois, tu dis effectivement il faudrait définir qu'est-ce que c'est que souverain, donc ok, tu le fais là et tu décris, en fait ça le serait, ils le savent, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas, puisque, comme Fred vient de dire, se rappeler, il y a un historique, il y a des choses qui ont été faites, etc. Et donc je n'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie pour de vrai d'une telle... façon de
alors,
faire.
Moi, je serais assez cynique. Je pense qu'il n'y a pas spécialement de stratégie. Il y a des gros intérêts financiers, tout simplement. Je pense que ça va au-dessus de la stratégie. C'est-à-dire que on a Microsoft qui fait énormément de lobbying et ça marche bien. Je pense. Enfin, je suis peut-être très cynique, mais j'ai l'impression que c'est. Oui, il y a pas mal de ça quand même. Ouais.
Je peux être bisounours.
Vas-y.
Allez, je vais être bisounours. Puis il y a aussi le fait qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Les gens, ils utilisent ça, ils font ça, ça va être compliqué pour eux, il va falloir investir du temps, il va falloir les former. Oh bah non, alors.
Ouais, enfin, c'est l'armée, quoi.
Non, ouais, c'est ça. C'est,
je veux dire, c'est pas. Ok, une administration à perpète les oies qui ils sont tous sur un Windows. XP, bon. Oh, d'accord.
Personne n'est méchant.
Mais c'est l'armée,
non,
quoi.
Mais c'est. Bon. Ouais. Non, vraiment, je comprends pas. Je suis assez estomaqué de ça, de cette capacité à continuer d'affirmer des trucs alors que c'est tout le monde sait que c'est pas vrai. Et donc, moi, je veux bien des lobbyings, ok, des affaires financières, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire on dirait que tout le monde est corrompu. Non, tout le monde n'est pas corrompu dans cet univers. Je ne comprends pas qu'est-ce que les fonctionnaires, tu vois, dans l'administration, pourquoi ils bougent pas plus?
Alors, je pense pas que les fonctionnaires soient corrompus, ça se saurait s'ils l'étaient. Par contre, peut-être que les décideurs. Ah, j'ai enlevé ma casquette bisounours. Peut-être que les décideurs, ceux qui prennent vraiment les décisions, ceux qui sont censés lire des rapports où on leur dit c'est mal, mais qui continuent à s'obstiner à faire du Microsoft, peut-être que là, il y a quelque chose à... Parce que c'est pas le premier rapport qu'on reçoit qui nous dit arrêtez cette dépendance aux GAFAM. Et pourtant, malgré tous les rapports, malgré tous les... Mmh. toutes les... Je sais pas... Enfin,
ça, puis, ça, puis, après, tout dépend ce que t'appelles corruption. C'est, la corruption, c'est pas forcément on met des valises de billets dans la poche de quelqu'un. Enfin, il y a tout le temps des copinages dans tous les sens. Moi, je me souviens de Christine Albanel qui avait bossé sur la loi Hadopi et puis après, bah, elle avait été... enfin, quand elle avait été mutée. c'est pas exactement ça, mais quand elle avait cessé d'être ministre, elle avait été bossée chez Orange, quoi. Donc,
rappelle que Christine Albanel, c'était à l'époque ministère de la Culture.
Voilà. Au moment de la loi Hadopi. Donc ça, c'était en 2009.
2008, 2009, des trucs comme ça. Et qu'après, elle a fini chez nos amis d'Orange. Donc,
voilà, ça, en fait, pour moi, ça fait partie de la corruption. Hein.
Oui,
oui ça je fait suis, partie. Dans ce cas-là, je pense effectivement, sans vouloir faire tout ce pourri, qu'il y a quand même un niveau assez élevé de copinage de ce genre au sommet de l'État. Quoi.
Des partenariats.
Il suffit de lire le rapport des multinationales qui a été remis par l'Observatoire des multinationales, je crois que c'était l'année dernière, où à un moment donné, dans ce rapport, dans les dernières pages, ils nous disent, alors vous rappelez de tous les gens qui étaient placés à tel endroit, tel endroit, tel endroit dans le ministère, et ben maintenant ils bossent à telle entreprise privée, telle autre entreprise privée, telle autre entreprise privée. Et là, on se rend compte que tout le monde se connaît, tout le monde est bien placé après, et comment tu peux lutter contre ça, quoi? À part en dénonçant.
Ben c'est ça, en dénonçant et puis pour moi en affirmant justement, en continuant de poser la question. C'est-à-dire que sinon dire ah bah oui on comprend, c'est parce que effectivement soit tu glisses sur le terrain de tout ce pourri et là tu alimentes on sait quoi comme nature et type de discours et donc l'État est tout pourri donc il faut le casser bien sûr. Soit tu vas vers des choses dans lesquelles on dit rien. Donc je pense qu'il faut continuer à dire on comprend pas. On voit pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Enfin,
moi, je pense qu'on continue quand même.
Enfin, moi, je pense
qu'on m'a dit qu'on faisait pas. J'ai dit que c'est bien qu'on continue. Alors, voilà.
Justement.
Dire, c'est bien qu'on continue.
On continue.
Isabelle, par rapport à on continue, je vais préciser que donc sur le site de l'April, l'April.org, vous trouverez une actu qui détaille un petit peu ce rapport. Et il est précisé dans l'actu, donc je vais lire le ministère des Armées, entre novembre 2020 et mars 2021, a conduit une étude sur l'opportunité de s'équiper en système libre sur le périmètre des postes de travail Internet pour, entre guillemets, réduire l'empreinte du fournisseur Microsoft en utilisant des solutions libres. Alors, document dont l'April a finalement réussi à obtenir communication par des demandes CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, et qui confirmait la faisabilité d'une telle migration. Pourtant, à ce jour, et malgré nos demandes répétées, rien n'indique si une décision a été prise ou pas. Et donc, évidemment, les deux parlementaires à l'origine de ce nouveau rapport, mon collègue Étienne, qui est en charge des affaires publiques à l'April, va les contacter pour leur suggérer une question écrite au ministère des Armées. Alors, je ne sais pas qui est la nouvelle ministre ou le nouveau ministre, là, j'avoue que je suis un peu sec, pour demander est-ce que finalement une décision a été prise. Parce que l'étude de faisabilité disait que c'est faisable, et finalement, on n'a toujours pas de nouvelles sur la décision. Donc voilà le suivi qu'on va pouvoir faire sur...
Une étude de faisabilité, donc c'est faisable. Donc c'est pas la première fois qu'on nous dit c'est faisable, c'est pas la première fois qu'on dit qu'il y a des dépendances. Donc on attend de l'action maintenant.
Exactement, quoi.
Ok, mais c'est super, voilà. On va reposer des questions. Trop bien.
Trop bien.
C'est cool.
Ok, bah voilà. J, tu voulais rajouter quelque chose?
C'est tout bon pour moi.
Non, ok. Alors, on va aborder un petit sujet beaucoup plus léger, là, franchement. Quand même. Hein.
Est-ce que c'est la campagne de Libre en fait?
C'est la campagne Libre en fait, évidemment. Donc, proposée par Magali, et dont l'une des animatrices principales, si ce n'est la animatrice principale, est en régie actuellement. Donc, évidemment, si elle veut intervenir tout à l'heure, Isabella, elle peut intervenir.
Elle
estime que non, je ne sais pas pourquoi. Bon, Magali, le Libre en fait, c'est quoi?
Alors, Libre en fait, c'est une initiative qui est lancée en 2001 par l'April, dont la première édition a eu lieu en 2022 sur 3 jours. En 2002 sur 3 jours, donc le 21, 22, 23 mars. Maintenant, donc 20 ans après, ça dure 4 semaines, c'est autour du 20 mars. Donc suivant les années, ça commence plus ou moins 15 jours avant, 15 jours après. Cette année, c'est du 9 mars au 7 avril. Et donc, on demande à plusieurs associations d'organiser des événements pour faire découvrir le logiciel libre au grand public.
Alors, c'est quel type d'événement, en fait?
Alors, ça peut être des conférences, ça peut être des démonstrations, ça peut être des passages de vidéos, de films, ça peut... Vous faites à peu près ce que vous voulez, du moment que ça parle de Libre, on est content. Pour que ce soit référencé sur le site de Libre en fait, pas besoin de contacter le site de Libre en fait. Il suffit de publier votre événement sur l'agenda du Libre. Et quand vous faites ça, vous faites deux bonnes actions, puisque c'est sur l'agenda du Libre, ça va vers Libre en fait, et c'est publié sur Linux FR.
Voilà, trois sites à la fois. Bon, ouais. Vous inquiétez pas, vous allez sur libreavoue.org ou sur causecommune.fm dans la page consacrée à l'émission et vous trouverez les références. On salue Echarpe d'ailleurs qui est sur l'un des salons, qui est le développeur principal de l'agenda du libre, hein, ouais. Qui permet de retrouver en fait tous les événements libristes en France et dans d'autres pays aussi, il y a d'autres versions. Donc actuellement, pour l'instant, la campagne vient juste de commencer de communication, hein, donc il y a 25 événements qui sont référencés. Pour rappeler, en fait, Libre en fait permet de créer cette dynamique, d'avoir un site vitrine, encourage les structures à organiser des événements, mais c'est pas Libre en fait qu'organise les événements, hein, c'est organisé par des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices, par des espaces publics numériques, par des bibliothèques, ouais. Voilà, des publics très variés.
Des particuliers.
Est-ce qu'Antanac fait quelque chose dans le cadre du Libre en fait?
On sait pas encore. Isabelle. Bien sûr, on a reçu la communication, of course. Mais on a, voilà, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un truc particulier ou bien est-ce qu'on estampille un truc qu'on a prévu de faire par ailleurs sur le livre? C'est un peu triché, mais pas trop. Comme on n'est pas 1012 non plus, donc voilà, on va voir.
Si c'est pendant les dates de Libre en fait, si ça s'adresse au grand public, c'est pas triché, c'est juste partagé.
On s'adresse toujours au grand public, donc oui.
Mais du coup, moi je veux repointer Isabella parce que elle fait un travail démentiel.
Mais je crois qu'elle va pas. Elle accepte d'activer son micro. Vas-y, Isabella.
Bonjour à nouveau. Je voulais juste préciser que vous n'avez pas besoin d'organiser un événement spécialement pour Libre en fait. Si vous avez déjà prévu un événement grand public dans les dates du Libre en fait, donc du 9 mars au 7 avril, vous pouvez le référencer. Il suffit de rajouter le mot-clé qui va bien. Libre en fait 2024 avec un tiret entre chaque mot sur l'agenda du Libre et hop, automatiquement, ça va directement dans le site du Libre en fait.
Et quand vous soumettez un événement sur l'agenda du Libre, il y a une petite suggestion qui est faite pour ajouter ce mot-clé. Donc voilà, c'est tout à fait... Et puis effectivement, c'est depuis 2002. Donc ça fait quand même 21 ans que cet événement...
23,
on est en 24. Oui, c'est vrai qu'on est en 24. Non, mais je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas vieillir. En 2002, le premier événement.
2022,
2024.
Ouais, c'est calcul comme ça. Non, mais
alors, binaire, ça donne quoi tout ça? Ok, donc en tout cas, vous, Libre en fait, donc n'hésitez pas soit à participer à un événement, soit si vous organisez déjà des événements, à le taguer effectivement, à le marquer comme étant Libre en fait, hein, pour du moment qui s'adresse effectivement au grand public. Magali.
Et du coup, j'ai une petite annonce, mais G pourrait la faire avec moi. Nous, pour Libre en fait, on va organiser un événement à la librairie où il va venir dédicacer ses livres, parler de licence libre. Et c'est possible que j'ai un petit Echarpe qui vienne faire des discussions pour présenter quelques logiciels et parler de chatons. Voilà, ouais. Donc n'importe qui, même une librairie, peut organiser un événement pour Libre en fait.
Bon, c'est pas n'importe quelle librairie.
C'est la présidente de l'April, quoi. Bon,
ouais, alors, non, non. C'est-à-dire que n'importe quelle librairie peut organiser, oui, même s'ils ne sont pas présidents de l'April.
Évidemment.
Tout à fait. Indique la date.
Ça sera le samedi 9 mars. Mais alors, je suis très mauvaise commerciale.
C'est le 9 mars et c'est pour les 20 ans de ta librairie.
Les 19.
Les 19. Oh, bah, viens, j'ai pas de chance avec les dates.
Pourtant, t'as le choix. Hein, oui,
non, on peut pas. On est en direct. Donc, les 19 ans de la librairie où, effectivement, tu fais toute une journée orientée vraiment à la liberté informatique.
Oui, pour une fois, j'ai l'intention de me faire plaisir et de mettre du libre dans la librairie.
Et c'est pour ça que ton pseudo bien connu dans le monde libriste, c'est Bouquinette, parce que t'aimes bien les livres et tu es pas très grande, comme tu le dis, mais que moi, je t'appelle Magali, je suis une des rares personnes à t'avoir connue avant ce contexte-là. Donc, voilà. J'ai du mal à t'appeler Bouquinette. Voilà. Donc, Libre, en fait, c'était un petit peu le sujet.
Du 9 mars au 7 avril.
Exactement. Le sujet un petit peu tranquille, festif, etc. avant qu'on passe à des sujets un petit peu plus tristounets, on va dire. Alors, pour le sujet suivant... ça c'est Isabelle.
C'est quoi, c'est lequel? Alors vas-y.
Je t'ai demandé tout à l'heure lequel était prioritaire par rapport au temps, mais le prioritaire, c'est la France crée un fichier des personnes trans.
Alors, en tout cas, ça, c'est le titre qui a été donné dans l'article que je vous ai fait passer.
Oui, de la quadrature du net.
La quadrature du net. Parce que moi, finalement, et pour faire le lien avec d'autres sujets qu'on a abordés précédemment, je pense que, en fait, ce fichier, il n'est pas simplement que pour les personnes trans, parce que sinon, si on est sur les personnes trans et qu'on reste dans un schéma binaire, et que là, moi, j'avais justement envie aussi de parler du non-binariat. C'est-à-dire qu'en fait, ce fichier qui va être créé là, il va être créé pour tous les changements d'identité en quelque sorte. Et que donc quelqu'un qui va dire « Ok, moi on m'a dit que j'étais un garçon quand je suis arrivé au monde, mais en fait moi c'est pas ça que je sens, je me considère comme quelqu'un de non-binaire » est également concerné. Donc c'est pas une attaque contre la cadrature du net, que c'est des gens que j'adore, donc c'est vraiment pas ça, mais juste pour moi c'est au-delà. Oui bien sûr, et c'est plus facile de défendre en fait les trans que défendre les non-binaires, encore, dans notre société, je ne sais pas pourquoi. Tu veux dire un truc déjà ? Vas-y, dis.
En fait, moi j'ai vu ça les trans, les non-binaires, ouais. Mais j'ai aussi vu ça avec les immigrés qui veulent juste changer de prénom pour se faire franchiser.
Alors ça, ils en parlent, oui. Voilà. Ils ont mis le titre sur les trans, mais ils en parlent après. Ouais. Effectivement, dans le corps du texte, ça c'est indiqué un peu plus. Alors, pour expliquer quand même pour les auditeuristes, pour pas aller trop vite, mais c'était pour juste, parce que comme tu citais le titre, qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu de... Donc, c'est un très récent arrêté ministériel qui autorise la création d'un fichier de recensement des changements d'état civil. La question, c'est que non seulement il y a un fichier, mais en plus qui va être accessible dorénavant et désormais par la police notamment, mais aussi tous les services du ministère de l'Intérieur, voire même la gendarmerie, l'armée, enfin, etc. Alors que normalement, un changement d'identité, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais ça doit concerner qui, à part les intéressés, les proches, ça doit concerner toutes les administrations qui ont quelque chose à faire avec ça. Autrement dit, évidemment l'INSEE, puisque tu changes de NIR éventuellement, même si...
C'est quoi le NIR ?
Pardon, le numéro, c'est le numéro de sécu, tu sais, le 1, machin, je sais pas quoi, ou 2, je crois. Et sauf que justement, ils n'ont toujours pas prévu un 0 quelque chose, pour le moment. Et donc ça, ça pourrait être aussi une revendication ou quelque chose qui a été traité depuis les années 70, en fait. Je pense que j'étais petite déjà, on parlait de ça, mais bon, bref. En tout cas, donc tu passes de 1 à 2 ou de 2 à 1 en fonction de ton changement d'identité éventuel. Et puis ça va toucher qui ? Ça va être voilà, donc la sécurité sociale, la CAF et les gens qui, même si au départ ce numéro NIR, on nous avait dit que ça servirait pas à trop de choses, vous inquiétez pas, c'est pas grave. En fait, on s'en sert beaucoup plus. Hein, c'est le numéro d'immatriculation de la personne et qui devient donc grâce à ce fichier un numéro d'identité et pas simplement d'identification. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ça veut dire que la police, les gendarmes, etc. vont pouvoir suivre tout changement et avoir éventuellement à en dire quelque chose ou à en faire quoi. Et ça veut dire aussi, comme tu le soulignais, que ce changement-là, pour des personnes qui sont donc... Alors on les appelle des immigrés. Je trouve l'appellation compliquée, moi.
C'est ce qui est utilisé dans l'article.
Ouais, c'est utilisé dans l'article. Alors, je sais pas ce qu'il faudrait dire, mais en tout cas, des personnes qui sont en exil, moi, j'aime bien plutôt ce terme, ou qui, en tout cas, ont été forcés peu ou prou à quitter leur lieu de vie habituel, leur lieu culturel, leur lieu natif, pour aller ailleurs, pour des raisons, soit économiques, soit politiques, soit etc.
Après, le changement de prénom, c'est aussi pour des gens qui n'aiment pas leur prénom parce que leurs parents ont fait des choix de merde, donc ça les concerne aussi.
Alors, excuse-moi, oui. Isabelle, il y a une question sur le salon. Quelle est la différence entre identité et identification ?
Alors ça, c'est un gros sujet qui dépasse...
Mais c'est toi qui viens de le dire.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Je l'ai dit. Je pensais que ça allait passer.
Non, les personnes qui nous écoutent suivent ce que tu dis.
C'est trop bien. Et je suis trop contente. Alors, identification, pour moi, c'était justement l'identification dans le sens... on a besoin d'un numéro d'immatriculation. Voilà. Et donc, pour l'identification de quelqu'un, c'est, on a décidé que le code, ça serait, d'abord le sexe, puis l'année de naissance, puis le mois de naissance, puis le département de naissance, puis l'ordre à la mairie de quand on t'a inscrit, enfin, etc. Donc, c'est quelque chose d'identifié comme étant, tu es un être reconnu comme étant présent dans la société française. Bon. L'identité, c'est autre chose. L'identité, c'est ce que la personne va en faire, va porter, souhaiter porter ou pas, au-delà de cette identification de naissance. Et c'est pas quelque chose... Parce qu'à l'exemple, t'arrives, t'es tout petit, là, puis on décide pour toi, en fait. L'identité, c'est ce que tu vas te construire, toi.
Alors que là, c'est plutôt quelque chose que tu construis.
Que tu construis, que tu modifies, que tu... Et je trouve que la société, par ailleurs, c'est ça qui est curieux, c'est que la société, par ailleurs, commence... Moi, je vois des tas de changements, notamment dans les écoles et autres, dans lesquels la question queer, par exemple, commence à se poser, où on autorise, on entend des instits accepter que des gamins, des gamines puissent dire des choses sur, mais en fait, moi je voudrais être un garçon, mais en fait, je me sens pas une fille. Bref. Et donc, bon, pourquoi ? Enfin, ça vient comme redonner un coup dans l'autre sens, qui est quand même étonnant. Et voilà, on voit pas pourquoi. On voit pas pourquoi on serait obligé, là, à nouveau, d'ouvrir la porte à des choses qui peuvent aller vraiment loin, parce que on le sait comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire que on commence par un petit machin, c'est un petit fichier, puis on ne sait pas derrière quelles vont être pour de vrai, non seulement les utilisations, mais aussi qu'est-ce qu'on va mettre comme garde-fou pour que ça ne soit pas fait n'importe quoi. On n'en sait rien. En tout cas, c'est pas dit. Hein. C'est dit nulle part.
Alors, peut-être, Meg, je te laisse réagir, mais oui. Juste préciser quand même, parce que c'est pas passé par un projet de loi ou autre, hein, c'est passé par un arrêté, donc juste c'est un acte réglementaire publié fin décembre, donc le 19 décembre 2023. On sait généralement que les documents, ces choses-là qui sont publiées autour de Noël, ça passe un peu.
Soit l'été, soit Noël.
Ouais, soit l'été, soit Noël, c'est pour passer un petit peu inaperçu. Donc voilà, c'est. Et évidemment, l'article de la Quadrature du Net dont parle Isabelle est sur la page de l'émission, ou sinon vous allez sur laquadrature.net. Et oui. Puis vous trouverez les références. Je crois qu'Isa, Mag voulait réagir.
Ah ouais, enfin, moi ça me choque pas que ce fichier existe tant qu'il reste enfin pour l'administration. Je veux dire, ils veulent faire changement, enfin qu'il y ait des changements de nom, c'est normal, qu'il y ait des changements de prénom, c'est normal. Ce qui me choque, c'est que ce fichier soit accessible à la police. Ça, je trouve ça mais totalement inadmissible et j'ai peur des conséquences, quoi. C'est des données qui sont censées rester privées ou pour certains besoins des impôts, la CAF et ainsi de suite. Pourquoi la police doit y avoir accès? Moi, si on peut m'expliquer en quoi ces informations doivent être accessibles.
On sait que les personnes concernées, que ce soit les personnes transgenres ou les personnes immigrées, ce genre de choses, sont déjà les plus victimes de violences policières statistiquement, hein, c'est pas moi qui l'invente. De fait, deviennent encore plus identifiables, encore plus fichées. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'ai l'impression qu'on a un truc avec les fichiers qui est le côté, en fait, parce qu'on peut, quoi. On peut faire un fichier, du coup, on va le faire. On se pose pas trop la question. En plus, d'après, si j'ai bien compris l'article de la Quadrature, ce fichier-là, comme les informations ont l'air anodines, c'est nom, prénom, bah, il est pas considéré comme un fichier de données sensibles. Donc, en plus, il est même pas spécialement protégé par rapport à d'autres fichiers. Ça. En fait, moi, je pense qu'on devrait avoir vraiment un principe de précaution sur les fichiers qui est en fait, ça devrait être nom par défaut. Il faudrait vraiment le défendre, faire une procédure compliquée pour faire accepter un fichier. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire quoi, on balance des fichiers comme ça, puis ah bon, et puis la CNIL peut donner un avis dessus, mais c'est un peu consultatif, quoi. Et c'est assez inquiétant, quoi.
Mais c'est pas simplement un fichier, c'est aussi des tables de correspondance qui sont ouvertes avec ça. C'est-à-dire que, ici, à un moment dans l'article, des choses concernant, même, on va aller aussi, pourquoi pas, demain matin, je dis n'importe quoi exprès, hein, mais sur, à demander la religion des gens. Je veux dire qu'on est, bah ouais, on est sur des modèles de cet ordre-là. Et du coup, c'est d'abord parce qu'un prénom, ça n'est pas anodain. Un prénom,
surtout quand on le change.
Voilà, quand on le change, il a du coup une origine éventuelle culturelle. Donc du coup, faire le lien entre ça, des questions de santé, des questions de domicile, et puis on revient à nos affaires sur la santé, et sur la CAF. Hein. Je veux dire, c'est la même chose pour moi. Quand tu dis qu'il y a pas de, enfin tu vois, c'est pas simplement faire des fichiers, c'est aussi les correspondances qui vont être possibles. Donc c'est pas que la police pour moi qui est le risque. C'en est un énorme, gigantesque, j'entends. Mais il y a aussi tout le rôle que d'autres institutions prennent dans le contrôle social. Et il est pour moi aussi important, aussi grave que celui de la police directe. Au moins la police, on sait qui elle est. La CAF, on pouvait croire que c'était pas une police, normalement, non?
Normalement.
Hein, voilà. Ouais.
Parce que tu dis que nom et prénom, c'est des données pas sensibles. Mais du coup, pour moi, le changement du nom ou du prénom devient une donnée sensible.
Je dis pas que c'est pas sensible, je dis qu'a priori, c'est la CNIL n'a pas considéré que c'était sensible. Ce qui se discute énormément, effectivement.
Ah, la CNIL.
Bah ouais, mais la CNIL...
Quoi, la CNIL?
C'est compliqué.
Vas-y.
Mais non, mais la CNIL, tu vois, c'est navrant. Je trouve ça navrant, la CNIL. Non,
elle est passée sur le sujet suivant.
Non, pas du tout.
Je ne pensais même pas au sujet suivant, effectivement. Non, mais en plus général, la CNIL.
La CNIL,
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Oui, mais là, la CNIL, elle dit quoi? Elle dit... Bon, oui, enfin, ça fait quand même plusieurs fois, là, ces derniers temps, que la CNIL a dit oui, bon, d'accord quand même, mais je suis pas d'accord, mais quand même oui.
Oui.
Bon, tu vois, c'est triste comme réaction, non? Enfin, je sais pas. Alors peut-être tu vas me dire, nous connaissons des gens qui quand même à la CNIL sont très gentils.
Non mais ils sont débordés, c'est évident, ils mettent pas assez de... Non, j'en sais rien, je sais pas du tout.
Bah je sais pas, je trouve que c'est de pire en pire. Bon, ouais. En tout cas, bref, c'est pas le sujet de la CNIL, là, c'est plutôt le sujet de ces fichiers, de ces tables de correspondance et de qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Ouais. Donc là, il y a eu des choses qui vont être faites et qui vont, à mon avis, il y a des choses qui vont bouger là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui se sont branchées sur ce sujet et donc on va peut-être pas laisser passer ça comme ça. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui là-dessus.
À noter que sur Wikipédia, il y a une discussion. Alors pas sur ce fichier-là, mais justement sur le traitement des personnes qui veulent changer de nom, prénom. Est-ce que ça doit être précisé? Est-ce que ça doit pas être précisé? Est-ce que c'est laissé au choix, ainsi de suite? Donc c'est vraiment un sujet qui est d'actualité sur le traitement des trans.
Alors c'est voilà. beaucoup un sujet d'actualité aussi parce que il y a toute une évolution du champ psychiatrique par rapport au, mmh. aux trans et aux personnes trans pardon et à la, au fait que dorénavant on n'est plus dans une obligation de suivi comme on a pu l'être précédemment et ou dans d'autres pays comme ça l'est encore et il y a quand même on parlait des personnes qui donc s'exilent par exemple ou viennent ici habiter en France mmh. il y en a beaucoup qui le font pour ces raisons-là aussi parce que dans le pays dans lequel elles vivent c'est juste improbable ouais, qu'elles le soient et donc bah voilà. Là, c'est, ça fait partie aussi de. Ça aurait pu faire partie de la loi immigration, en fait. Ils auraient pu mettre ça aussi dedans, non ? Sur la question de l'accueil en France. Pardon, je dis vague.
Bon, espérons que la France reste quand même un pays assez accueillant à ce niveau-là.
C'est mal barré.
Voilà, merci.
Bah écoute, merci Isabelle. On va passer. Bah, on va pas lâcher la CNIL, parce qu'on va enchaîner avec le dernier sujet. La CNIL qui valide le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Donc ça, c'est pareil, c'est toi qui as suggéré ce sujet-là.
Ça faisait l'écho avec, ouais. avec mais le
tout
sujet.
À fait. En fait,
je
n'avais pas vu que Vincent était rentré dans...
Il était super discret. Hein.
Il était très discret, il s'est mis derrière les caméras pour pas qu'on le voie.
C'est du direct. Hein.
Voilà. Alors, comme on est en direct, Vincent, ta chronique, elle dure combien de temps à peu près ?
Là, j'ai dû l'écourter.
Bon, ok, d'accord.
Ah.
Bon. D'accord. Alors, pour les personnes qui n'ont pas entendu, Vincent a dit qu'il a dû écourter sa chronique à cause de G. Donc, ouais. voilà, il nous reste 5-10 minutes, vraiment maximum, quelques minutes pour ce dernier sujet.
Oui, mais je vais faire très vite.
Alors, c'est quoi le sujet ?
C'était intéressant parce que ça faisait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et ce que tu avais lancé toi comme sujet sur Microsoft, puisque donc, la CNIL, la pauvre, pardon, veuille m'excuser, cher CNIL, qui a validé le choix de Microsoft pour héberger les données de santé. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout de suite, d'accord, hein, on commence comme d'habitude, en fait, en France, on adore faire, on expérimente, et puis après, on généralise, parce que l'expérimentation a bien marché. Donc là, on imagine que ça va bien marcher, et donc le choix de Microsoft a été fait parce que, et là on va revenir aux autres questions que tu évoquais tout à l'heure.
Ouais,
tu vas grincer, vas-y. Faute d'alternatives européennes satisfaisantes. Alors ils n'ont pas mis le mot souverain là, mais parce que du coup, non.
Ils ont mis européen.
C'est ça, c'est la même. On est vraiment sur le même type de sujet. En fait, on était très raccord dans nos propositions de choses sur l'actualité là. Parce que, en fait, cet entrepôt de données donc, de santé pour la recherche, hein, c'est dit que c'est pour la recherche, c'est pour notre bien, évidemment.
Mais c'est toujours pour notre
bien. Hein. Voilà, c'est pas du tout pour aller déposer des données et avec un risque. Non, il n'y a pas... Bon, d'accord, il y a un petit peu un risque, mais c'est aussi la faute de... Comment il s'appelle ? Alors, il y avait OVH...
Ouais, qui a pas fait assez bien.
NumPost et Cloud Temple. Je ne les connais pas, les deux autres. Mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas fait assez bien, les fournisseurs français. Et donc, en fait, c'est de leur faute si on a été obligé de confier à Microsoft les données de santé de 4 ou 5 départements, là, avant de pouvoir mettre ça...
Malgré les risques. Toi, voilà, ils sont pas fait assez bien, mais on a confié à Microsoft
parce que
malgré
pour
les
un
risques.
Petit temps, c'est temporaire.
Oui.
D'accord.
Un temporaire
on va
qui
les
va
donner...
durer.
Ah oui, mais de toute façon, temporaire, ça ne veut rien dire. Quand tu donnes des données, tu les donnes. Enfin, je veux dire, comment
tu ne peux
tu
pas
fais...
les récupérer après.
Hein. Dire... Ben non, tu ne peux pas dire après, faites comme si je ne vous avais rien dit. Non, voilà. Ben non, c'est dit. Ce qui est dit est dit. Donc, voilà. Donc, on a 4 hôpitaux français, les Hospices Civils de Lyon, le Centre Léon Bérard, le CHU de Nancy, la Fondation Hôpital Saint-Joseph, et puis les données de l'assurance maladie, remboursement de consultation et de soins, parcours hospitalier, et hop, on refait le lien avec notre autre fichier, non ?
Ouais.
Mais moi, ça c'est toujours le même truc qui m'agace, quoi. C'est ce côté, il n'y avait pas d'alternative, mais une alternative, ça pourrait se construire, en fait.
Ah.
Et ce truc, c'était ce qui, pour moi, est vraiment un dogme, le dogme néolibéral qui dit qu'en gros, la puissance publique ne doit avoir aucune compétence, quoi. C'est un truc, il faut qu'on achète des trucs, mais grand Dieu, alors là, on va jamais embaucher des gens en interne, parce que c'est un coût. Alors qu'en vrai, c'est débile, je veux dire, des fonctionnaires, ils vivent en France, ils consomment en France, alors que des licences, quand tu les payes à Microsoft, ça part à l'étranger en pure perte, quoi. Pendant des décennies, on a eu des fleurons français, on a eu EDF, on a eu France Télécom, la SNCF, tout ça. On a tout pété et maintenant on refuse complètement de faire marche arrière, de dire que bah en fait ne serait pas mal d'avoir des compétences publiques, quoi, des compétences en interne, quoi. Et voilà. Et donc que ce soit pour ça, pour l'armée, pour ce que tu veux.
On en a gâché plein des compétences qu'on avait dans les ministères. Il y avait énormément de gens hyper compétents sur les sujets d'informatique, notamment dans les ministères. Et ceux-là, on les a virés.
Bizarrement, quand ils sont compétents, ils veulent faire du libre et du coup, ben, on s'en passe. Pardon.
CQFD, voilà. Bon, c'est bien, on s'en tient là, c'est bien. Non, c'était clair comme sujet.
Comme tu veux. Hein,
Non, je ne sais pas, sauf si vous avez autre chose à en dire.
Sauf s'il y a des réactions, ou même sur les salons web, je ne sais pas s'il y a des réactions.
Il faut attendre les 30 secondes de PeerTube.
Ah oui, effectivement, il y a un décalage, qui doit être de 25-30 secondes, voire un peu plus par rapport à PeerTube, effectivement. Bah, écoutez.
Non, mais c'est vrai que on a eu trois sujets qui se recoupaient pas mal, que ce soit sur le ministère des Armées, ça, et puis c'était quoi le dernier? C'était.
Le piège Microsoft.
Tous les sujets en fait qu'on a traités là, tous ces sujets là en fait ils ont comme conclusion ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour un jour arrêter le désastre en la matière, redonner des compétences, des gens, de l'argent là où il faut pour développer des choses un peu de manière intelligente et libre, quoi.
Non, mais la question, on sait comment faire.
Mais bien sûr,
il faut faire ça.
Il suffit
juste de le faire. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi les administrations, les élus, qui vous voulez, ne le fait pas? Parce que, bon, ok, ils font pas de libre, mais ça reste en interne, ça fait monter les compétences. Bon, déjà, je serais un peu plus contente que juste engraisser Microsoft et les GAFAM, quoi. Mais même ça, ils le font pas.
Oui, moi, je parlais des fleurons français, France Télécom. Moi, je dis pas qu'ils faisaient un truc fabuleux avant. Bon, on a eu le Minitel qui était quand même un truc, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'était quand même un truc.
Oh, c'était génial.
Ah, c'était quand même un truc, une exception française. Je veux dire, c'était un peu un ancêtre d'Internet. Voilà, c'était un truc qui avait été développé par la puissance publique. Alors, ok, le Minitel, c'est pas fou. Mais donc oui, il y a quand même un côté, même si c'est pas, ça va pas aller dans une direction, parce que ça n'ira jamais dans notre direction complètement, de toute façon, parce que bon, on est en démocratie.
Ah, c'est ton côté négatif, mais mes casquettes bisounours.
Non, mais même, mais je pense pas que ce soit forcément une bonne chose que tout aille dans ma direction. Je ne suis pas égocentrique à ce point, mais même si ça allait dans des meilleures directions, dirons-nous, même si c'était pas du 100% libre et tout, si c'était, mais déjà si effectivement on arrêtait de se considérer comme des consommateurs et de tout balancer dans des logiciels étrangers et tout ça, il y aurait déjà du mieux, quoi.
Ça vous va comme conclusion ?
Ouais, c'est bien.
C'est bien ?
Ouais, c'est bien.
Alors, je préviens d'avance la régie que ça sera la troisième pause musicale, pas la deuxième qu'on va faire. Voilà. Bah, écoutez, merci pour ce nouveau Café Libre, avec G.
Merci à toi.
Magali, dites bouquinette. Allez, je vais faire un effort. Et Isabelle, écoutez, le prochain au Café Libre, c'est le mois prochain. Alors, je ne sais pas qui sont les trois personnes qui participeront. Vous verrez, parce que c'est une équipe ressoudée de 6 personnes qui tournent. En tout cas, merci à vous et merci aux personnes qui nous ont écoutés.